La maison au bout du chemin, une émission de Radio Rancière présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans notre nouvelle émission « La maison au bout du chemin », un titre qui mérite quelques explications. L'an dernier, nous avons fait la connaissance de M. Jean-François Vivier, directeur d'un EHPAD de l'agglomération Chartrenne. M. Vivier nous a offert une visite des lieux et ces lieux ainsi que tout ce qui s'y passe nous ont vivement intéressés. De fil en aiguille, nous avons eu l'idée d'une mensuelle destinée à vous faire connaître la vie quotidienne au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, d'où ce titre « La maison au bout du chemin », le chemin de la vie, vous l'aurez sans doute compris. Tout au long de cette année, eh bien, vous découvrirez les coulisses du parc Saint-Charles, nous rencontrerons les professionnels en situation, l'occasion aussi de découvrir les métiers de l'aide à la personne, un secteur en plein développement, on vit de plus en plus vieux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et un secteur en pleine mutation, car la prise en charge des personnes âgées dépendantes a beaucoup évolué ces dernières années. Nous verrons comment dans les prochaines semaines. En attendant, nous sommes reçus aujourd'hui dans son directeur par le directeur du Parc Saint-Charles, Jean-François Vivier. Monsieur Vivier, bonjour. Vous allez dans la prochaine demi-heure évoquer votre travail, vos fonctions, votre établissement. Mais parlons tout d'abord de qui vous êtes, quel a été votre parcours professionnel avant d'arriver ici.
Bonjour. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier, comme finalement aujourd'hui un certain nombre de directeurs d'EHPAD. Ça n'est pas ma première vocation, on va dire. Pour faire assez simple, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les milieux de la presse et de l'édition. Voilà. Avant, il y a donc pas loin d'une dizaine d'années maintenant, d'envisager une reconversion professionnelle et le hasard des rencontres ont fait que voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui était devenu directeur d'EHPAD, qui m'a parlé de son métier et ça m'a passionné. Voilà. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était ce métier que j'avais envie de faire. Voilà, pour plusieurs raisons. La première pour le sens qu'on pouvait y donner, et puis aussi, alors ça c'est très personnel, mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin que les choses avancent, et puis surtout qu'elles ne soient pas les mêmes en permanence, et là, dans ce métier, on est gâté, des choses différentes, on en fait 50 par jour, voilà, donc ça c'est quelque chose qui continue à m'animer, voilà, et du coup, pour faire cette reconversion, voilà, il se trouve que j'avais été diplômé d'une petite école de commerce et donc j'ai refait un an d'études, un master 2 en droit de la santé pour pouvoir prétendre à la direction d'un EHPAD.
Alors de l'édition à l'EHPAD, il y a quand même un long chemin. Est-ce que vous avez une fibre particulière pour le troisième et le quatrième âge ?
Alors, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que voilà, j'avais fait quand même, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, un an un peu particulier à l'étranger où j'avais passé en gros 6 mois auprès des enfants de la rue et 6 mois aussi auprès de personnes qui n'étaient pas des personnes âgées mais qui étaient des personnes atteintes du sida en fin de vie en Inde. Et voilà, ça, c'était une année qui m'avait quand même beaucoup marqué et je pense que j'avais gardé un petit peu ça au fond de moi, voilà, pendant quelques années.
Alors, l'EHPAD que vous dirigez est un établissement privé, c'est-à-dire que finalement vous êtes chef d'entreprise, ce qui implique d'avoir des qualités de gestionnaire aussi, hein.
Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, mais même quand c'est pas un établissement privé, même si c'est un établissement public ou associatif, il faut avoir effectivement des qualités de gestionnaire. Voilà, moi il se trouve que ça fait partie de ma formation initiale, donc ça n'a pas été une grande difficulté pour moi, en tout cas sur cette partie-là.
Alors entrons dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu dans ces grandes lignes l'organigramme de l'EHPAD d'ici du Parc Saint-Charles ?
Alors nous avons une particularité par rapport à... En fait il faut savoir qu'en France... grosso modo, la quasi-totalité des EHPAD, qu'ils soient publics, associatifs ou privés, fonctionnent sur le même schéma. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, une personne très importante au centre de l'organisation, qui est l'infirmière coordinatrice ou cadre de santé, puisque c'est elle qui va gérer tous les plannings des aides-soignantes, des infirmières, etc. On est dans un métier où, il faut le reconnaître, il y a un turnover et un absentéisme qui sont relativement élevés. Et du coup, grosso modo, cette personne, elle passe quasiment ses journées à rencontrer de futurs professionnels, à organiser pour qu'il n'y ait pas de trous dans les plannings, etc. Là où les choses sont très différentes chez nous, c'est qu'on a bien cette personne, cette infirmière coordinatrice, mais qui dirige, entre guillemets, simplement son équipe infirmière et l'équipe de nuit. Et ensuite, nous avons divisé la résidence en unités de vie, qui correspondent grosso modo très simplement aux étages, et chaque unité de vie est dirigée par ce qu'on appelle une maîtresse de maison. Chez nous, la maîtresse de maison, c'est une aide-soignante à qui on donne d'énormes responsabilités, qu'on forme pour ça aussi, puisque c'est elle qui va faire le recrutement et les plannings de son équipe. Et ça, ça change beaucoup de choses. Ça change, si vous voulez, il y a un double effet qui se coule. C'est que d'un côté, dans les unités, l'équipe est beaucoup plus encadrée, puisque la maîtresse de maison est au milieu de son équipe toute la journée. Au lieu d'avoir une personne qui en dirige 40, on a en fait une personne pour aller entre 3 et 5 personnes. Donc forcément, l'équipe est plus encadrée, plus soutenue aussi. Et le deuxième effet, c'est que du coup, ça libère du temps à l'infirmière coordinatrice pour faire autre chose que du planning. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de ce temps ? Bah, par exemple, vous savez que l'Eure-et-Loir est malheureusement a le triste record de la désertification médicale, et donc, par exemple, elle court derrière les médecins traitants pour qu'ils se déplacent chez nous pour rencontrer les résidents, pour avoir le meilleur suivi médical possible. Voilà, elle a du temps pour rencontrer les familles, et puis. Puis elle a aussi du temps, alors pas seule bien sûr, mais elle est un peu la cheville ouvrière de ça, pour développer de grands projets structurants pour l'établissement, comme par exemple, c'est sur elle qu'on s'est appuyé pour lancer ce qu'on appelle la télémédecine dont on parle pas mal dans les médias, mais qui est beaucoup plus difficile à mettre en place sur le terrain réellement. Elle existe chez nous, elle marche chez nous sur 4 spécialités, que sont la dermato, la cardio, ce qu'on appelle les troubles du comportement, donc les personnes atteintes d'Alzheimer ou troubles assimilés. Et enfin, nous sommes aussi établissement pilote avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Voilà. Et du coup, je passe à l'autre grand sujet structurant qui est la prise en charge de la fin de vie. Voilà, depuis maintenant 3 ans, le Parc Saint-Charles a mis en place une démarche palliative pour pouvoir accompagner nos résidents jusqu'au bout dans l'établissement, aussi bien en prenant en charge l'aspect médical, prise en charge de la douleur, de l'angoisse, en mettant en place ce qu'on appelle un PCA, qui est un appareil qui permet en fait de passer des médicaments qu'on trouve habituellement à l'hôpital. C'est d'ailleurs des médicaments qu'on va chercher à la réserve hospitalière. Mais voilà, les équipes infirmières ont été formées à ça. Et d'autre part, on a formé l'ensemble de l'équipe, des aides-soignantes jusqu'au chef cuisinier, à la prise en charge, à l'accompagnement à la fin de vie de nos résidents. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de nos résidents terminent leur vie dans l'établissement, accompagnés des gens qui les connaissent depuis des années. Et voilà, ça permet à la fois, bien entendu, de rassurer le résident, d'accompagner aussi sa famille. Et enfin, et c'est loin d'être négligeable pour moi, de donner du sens à ce qui se vit dans l'établissement pour aussi tout le personnel.
Cette organisation, c'est vous qui l'avez créée en arrivant. Vous avez trouvé une situation qui était autre. Vous avez souhaité apporter des changements quand vous êtes arrivé.
Alors, l'organisation globale, non, elle était existante. Après, ça fait donc moi un peu plus de 6 ans que je suis à la tête de l'établissement. Il y a eu pas mal de changements, de réorganisations, voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'avoir une équipe d'une extrême qualité qui travaille avec moi, ce qui fait que, voilà, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nos résidents sont bien pris en charge.
Alors, ces résidents, qui sont-ils ? Parce que je me souviens, il y a encore quelques années, dans ce qu'on appelait les maisons de retraite, il n'était pas rare de rencontrer des septuagénaires, même parfois des sexagénaires, c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Ce sont plutôt des personnes très âgées. On arrive en maison de retraite quand on peut plus faire autrement.
Oui, globalement, pour vous donner une idée, nous, au Parc Saint-Charles, en moyenne, les gens rentrent au Parc Saint-Charles à 87 ans. Voilà. Donc effectivement, ça a beaucoup évolué. Les politiques publiques font, et c'est une bonne chose en soi, que l'on puisse rester le plus longtemps possible à domicile. Et effectivement, on arrive dans nos établissements réellement quand ça n'est plus du tout possible à domicile. Voilà. Alors, pour nous, c'est une difficulté forcément parce que les gens arrivent chez nous de plus en plus dépendants, à la fois physiquement et psychologiquement, on va dire. Et du coup, la prise en charge a beaucoup évolué. Voilà, c'est sûr que quand on est arrivé en maison de retraite à 70 ans, en fait, on se refaisait une vie en maison de retraite. C'est plus difficile aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui y arrivent et on fait tout pour que ça soit le cas. Mais c'est vrai que quand vous êtes quasi grabataire, se refaire une vie sociale, c'est plus compliqué.
On s'aperçoit à quel point, en vous écoutant, l'offre de services, j'ose employer cette expression, a changé dans les établissements pour personnes âgées. Bien souvent, donc on faisait la toilette de la personne, la personne restait devant sa télé, etc. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui chez vous.
Alors, oui et non, on continue à faire la toilette et voilà, heureusement. mais ce qui a surtout beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est en fait le développement de la maladie d'Alzheimer. Alors, certaines personnes disent, on l'appelait pas comme ça auparavant, mais ça existait déjà. Certainement un petit peu, mais c'est quand même une maladie qui a énormément évolué sur les 20 dernières années. Moi, je me souviens quand je suis arrivé dans ce métier d'aide-soignante qui était là depuis 20-30 ans et qui me disait on faisait pas ce métier-là il y a, quand on était arrivé il y a 30 ans dans ce métier et on ne connaissait pas cette maladie. On a vu des gens arriver avec cette maladie petit à petit depuis maintenant 15-20 ans.
Vous me permettez de donner un chiffre. En 2020, je suis allé voir tout à l'heure, donc c'est tout frais. En 2020, 3 millions de Français seront atteints de la maladie d'Alzheimer.
Oui, alors c'est une maladie en fait qu'on a encore beaucoup de mal à connaître. Non, on la connaît maintenant, mais on a beaucoup de mal à savoir comment elle arrive, comment elle se développe, et puis chaque personne qui développe la maladie d'Alzheimer va développer des symptômes très différents. Voilà. Donc c'est vrai que la prise en charge, elle est à la fois difficile et en même temps elle est passionnante, passionnante dans le sens où chaque accompagnement est différent. Voilà. Et c'est ça qui donne aussi du sens, c'est qu'on est on n'est pas dans une systématisation des choses. Chacun de nos résidents, chacune de nos résidentes, elle a son histoire, elle va développer des choses différentes, et donc notre rôle avec toute l'équipe, c'est tous les jours de se dire qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qui va lui permettre d'avancer encore un peu, et ça c'est absolument passionnant.
Ouais. En quelques mots, on a toute l'année évidemment pour découvrir tout ce que vous allez faire, mais pour les malades d'Alzheimer, qu'est-ce qui est prévu ? Il y a des animations par exemple, on sait que c'est important pour...
Alors oui, on a des animations particulières pour eux, je pense par exemple à ce qu'on appelle la zoothérapie. Voilà, on a une fois par semaine une zoothérapeute qui vient avec des animaux et donc qui travaille avec quelques résidents. Mais après, ce sont aussi des gens qui ont beaucoup de mal à se fixer. Donc les animations, on ne peut pas faire des animations d'une heure ou de deux heures avec des résidents Alzheimer. Donc ça va être des petits flashs. Et puis moi, je crois beaucoup aussi à la rencontre personnelle entre le personnel de l'établissement et le résident. Voilà, je crois que ce qui réellement, ce sont des gens qui ressentent beaucoup les émotions. Ouais. Moi, je suis persuadé que il n'y a rien qui les rende plus heureux que simplement un sourire. On prend la main de la personne, on l'écoute quelques minutes et ça les rend profondément heureux.
Vous aimez beaucoup leur rendre visite?
Alors oui, moi j'ai une passion, je ne sais pas si c'est le mot, mais j'ai une appétence particulière pour les résidents Alzheimer avec qui je trouve les relations sont extrêmement simples et voilà, même si c'est parfois compliqué, mais c'est quand même un grand plaisir toujours d'aller les rencontrer.
Alors Jean-François Vivier, il y a quelques semaines, vous avez organisé une projection au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres, à l'affiche Prendre soin, un film qui relate la vie quotidienne d'une équipe de soignants dans une résidence pour personnes âgées dépendantes. Cette expression, prendre soin, est devenue le leitmotiv des travailleurs sociaux et médico-sociaux depuis quelques années. Alors, prendre soin, ça signifie quoi ici au quotidien ?
Bah, prendre soin, c'est prendre soin de la personne dans tout ce qu'elle est. Donc, effectivement, en fait, on parle beaucoup du prendre soin. Mais les soins, à mon sens, il ne faut pas les limiter justement à la toilette, au change, au fait que la personne, elle soit digne. Voilà. Mais pour moi, la dignité, elle va beaucoup plus loin que ça. Elle est aussi accompagner la personne dans ses troubles, si elle en a, il y a souvent beaucoup d'angoisse chez la personne âgée. C'est vraiment s'engager auprès de la personne et pas simplement voilà, cocher des cases. J'ai bien fait ma toilette, j'ai bien fait mon change, le change de 14 heures. Ça pour moi, c'est la base, effectivement, du métier. Mais si on s'arrête là, c'est pas ça, accompagner des personnes âgées, et en particulier encore moins des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment être comment dirais-je, vraiment en lien avec elles. Et le lien, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est être présent avec elles, c'est passer du temps aussi avec elles. Alors je sais que ça peut être compliqué dans nos organisations. On parle beaucoup du manque de soignantes en EHPAD, que je ne conteste pas en tant que tel. Après, je pense que le malaise des EHPAD, il n'est pas simplement le manque de soignants, il est aussi le manque de sens, justement, qu'on donne à l'accompagnement. Et encore une fois, si être aide-soignante, c'est juste faire des changes et des toilettes, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, si c'est accompagner quelqu'un du lever, moi c'est ce que je dis souvent aux soignantes et je ne suis pas sûr qu'elles en aient toujours conscience. C'est incroyable quand même de penser qu'on peut être la première personne qui va, par son attitude, soit illuminer, soit au contraire assombrir. Si vous entrez dans la chambre de la personne le matin avec un grand sourire en lui disant « Bonjour madame, est-ce que vous avez bien dormi ? Ah, on va avoir une belle journée aujourd'hui. » Bah, vous pouvez être sûr que dans 90% des cas, ça va avoir un impact sur toute la journée réellement du résident. Et d'accompagner ce résident jusqu'au coucher, être la personne qui va voilà, lui souhaiter bonne nuit, parce qu'on sait que les personnes âgées ont souvent des angoisses en fin de journée, ça donne un sens totalement autre. Et c'est, quand on y pense, c'est incroyable le pouvoir de faire, de donner du bonheur, ou au contraire, si on fait mal son travail, mais enfin, je pense qu'on fait tout justement pour que ça soit plutôt dans l'autre sens, de ce pouvoir que l'on peut avoir sur nos résidents. quand je dis pouvoir, je m'entends, hein, mais
en tout cas, le pouvoir d'améliorer leur vie, de l'embellir. Embellir, je tiens, d'ailleurs, j'emploie ce terme à dessein, parce que finalement, je trouve que le lieu est très beau aussi. Il y a par exemple des petites salles. Ce sont des petits espaces qui sont très cosy, c'est très agréable.
Ah oui, 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 on essaye effectivement à la fois d'accompagner, donc, comme je le disais, mais aussi d'accueillir dans un endroit qui soit le plus beau possible. Voilà, on a l'immense chance, ça fait partie de l'histoire de la maison, d'avoir par exemple de vrais tableaux au mur, d'immenses tableaux qui ont été réalisés par une équipe de peintres russes dans les années 50. Enfin, ça serait trop long de vous raconter toute l'histoire, mais ça donne, je trouve, une vie à la résidence on n'est pas simplement, pareil, le restaurant, chez nous, on va réellement au restaurant, on va pas au réfectoire, on va pas à la cantine, on va au restaurant, les résidents sont placés par petites tables de 6 et servis à l'assiette par nos serveuses en salle, ils sont réellement au restaurant.
Dans la série J'ai testé pour vous, je dois avouer que votre cuisinier a beaucoup de talent.
Je crois qu'on peut le dire.
Alors peut-être une dernière question, c'est la relation avec les familles, est-ce qu'elle va de soi? On se doute que par exemple pour un enfant c'est pas facile de faire admettre ses parents en EHPAD, il y a de la culpabilité, etc. Vous devez gérer tout ça, non?
Alors effectivement, il y a très souvent une grande culpabilité des familles. Et donc effectivement, notre rôle, il est d'accompagner les familles dans ce moment qui est quasi toujours douloureux, de créer cette relation de confiance entre la famille et nous. Et si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être tous ensemble partenaires autour du résident et non pas prestataire de service. Si vous voulez, parfois, c'est pas toujours le cas, c'est même plutôt rarement le cas, et tant mieux, mais parfois on peut avoir des familles qui nous disent je paye, donc j'exige d'avoir ça. Là, la relation, elle est un peu viciée. Notre rôle, c'est plutôt juste vraiment de travailler en partenariat avec la famille pour que nous ne serons jamais, même si on développe des relations avec les résidents qui peuvent être très fortes, on ne sera jamais fils ou fille de nos résidents, et donc on ne prend pas la place des enfants. Pour autant, le but, c'est de travailler ensemble, d'abord pour que la personne âgée, quand il n'y a pas d'autre choix, accepte cette situation, et honnêtement, la quasi-totalité des gens qui sont ici ne le regrettent plus une fois qu'ils sont rentrés, une fois qu'ils ont vécu quelques semaines, quelques mois dans la résidence. Au final, ils sont contents parce qu'ils sont pris en charge, parce qu'il y a des relations qui se développent, etc. Voilà. Et donc, ce que l'on cherche beaucoup, c'est mettre la famille aussi au centre de la prise en charge. C'est pas la famille contre les soignants, c'est d'accompagner la famille. Je vous parlais tout à l'heure du rôle des maîtresses de maison. Le premier rôle des maîtresses de maison, après l'organisation de l'équipe, c'est justement d'être ce lien avec la famille. Très souvent, en EHPAD, les familles disent on ne sait jamais trop à qui s'adresser, tout le monde est débordé, etc. Chez nous, la maîtresse de maison, elle est là pour faire ce lien avec la famille sur la vie quotidienne. Et on a mis en place avec l'équipe quelque chose, c'est que je demande aux maîtresses de maison, elles le font très, très simplement, d'appeler les familles. Pas que quand on a des mauvaises nouvelles à donner. C'est souvent quand vous êtes famille et que vous voyez le téléphone de la résidence qui s'affiche. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? On appelle aussi pour donner, ça va être des petites choses très simples. On a organisé aujourd'hui un repas thérapeutique. Votre mère était là. Elle avait l'air heureuse. C'est elle qui a épluché les pommes de terre. Elle nous a raconté plein d'anecdotes sur son enfance, etc. Vous voyez, c'est vraiment d'améliorer cette confiance et de montrer à la famille qu'on prend bien en charge son parent. Ça va être la psychomotricienne, ça va être l'ergothérapeute qui vont la psychomotricienne par exemple fait des balnéothérapies de manière très régulière. Elle appelle les familles pour expliquer comment s'est passée la balnéo, etc. C'est toute cette prise en charge aussi individuelle que l'on fait autour du résident, qui est important de montrer à la famille.
Et puis il y a des sorties également, pour terminer. Vous faites des sorties régulières.
À très régulières. On a effectivement, alors nous n'avons pas d'animatrice, nous avons une coordinatrice de projet d'animation, voilà, qui est très très dynamique et qui partage son temps en fait entre animer elle-même des ateliers, faire donc effectivement des sorties. On fait à peu près une sortie par semaine avec 6 à 8 résidents que l'on emmène. Ça va être au cinéma, au restaurant, ça va être là la semaine prochaine nous avons une sortie, le petit train touristique de Chartres vient se garer devant la résidence et va prendre, on emmène en général au moins une quarantaine de résidents qui sont toujours ravis, voilà, de revoir Chartres. Mais ça peut être aussi par exemple ça fait plusieurs années qu'on fait au mois de juillet des sorties à Deauville. Sur la journée, on emmène les résidents voir la mer à Deauville. Voilà. Donc on fait des choses et puis elle coordonne, c'est pour ça qu'on l'appelle coordinatrice aussi, tous les gens qui interviennent sur la résidence, que ça soit les Blues Roses, que ce soit et toutes les écoles. On a des partenariats avec 6 à 7 écoles différentes, et donc de la petite maternelle au BTS de Gérant de Beauce, qui viennent de façon régulière faire ce qu'on appelle du lien intergénérationnel, voilà, faire des activités, faire des choses avec nos résidents pour qu'ils se sentent encore investi dans la cité.
Jean-François, merci beaucoup à vous. Puis on se retrouve le mois prochain ici même au parc Saint-Charles. On va vivre une aventure comme ça pendant un an au milieu du personnel. Merci de votre accueil.
Ma mère dansait dans les bars et mit en jean Harlow. Mon père lançait les poignards au cirque à Buffalo. Puis on m'a dit un jour qu'au West, et moi j'ai pédalé. De New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors j'ai usé mes coudes à frotter les comptoirs. Avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Le long de Sunset Boulevard, bras dessus, bras dessous. On perdait ses derniers dollars dans les machines à sous. Un jour, Benjamin Chancard, le cousin ou le frère, du type qui joue du sitar à la cour d'Angleterre, a gagné dès le droit d'être un an son amant. On est allé vivre à trois dans son appartement. Il ramenait des voyageurs, des collégiens timides faire de dollars l'heure quelques polaroïdes. Elle nous mettait dans la cuisine pour ne pas qu'on regarde. En deux mois, on jouait tout Gershwin sur des verres à moutarde. On a fait du musical déguisé en hindou. Elle dansait en baby doll sur Rhapsody in Blue. Elle a fini sous le capot d'une Dodge ou Cadillac. J'ai ramassé son chapeau et l'autre a pris son sac. Puis il a continué sa vie d'hindou errant. Moi, je suis retournée vivre chez mes parents. Ma mère devenait trop laide pour jouer Jean Harlow. Mon père avait tué son aide au cirque à Buffalo. Da-da-dee-dum, da-da-dee, da-da-dee-dum.